Et David Doucan, vous recevez ce soir le député européen Les Républicains, ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux.
Bonsoir Brice Hortefeux.
Bonsoir David
Alors
Doucan.
Emmanuel Macron, ce matin, présidait la cérémonie d'hommage aux quatre policiers qui ont été tués jeudi par l'un de leurs collègues qui s'était radicalisé. Et voilà ce que Emmanuel Macron a dit aux policiers qui étaient présents dans cette cour de la préfecture de police. « Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. » Ce sont des mots forts du président Macron, mais on a le sentiment de les avoir entendus 10 fois. Nicolas Sarkozy en 2012, après les actes perpétrés par Mohamed Merah, François Hollande en 2015, en 2016. Est-ce que franchement, Brice Hortefeux, la France n'est pas sans défense face à ce terrorisme islamiste, en particulier celui qui nous vient de l'intérieur?
Bon, votre question a 14 tiroirs, là. Premier élément, Emmanuel Macron a tenu un discours avec les mots qu'il devait prononcer. Et c'est une évolution, puisque pendant la campagne présidentielle, il avait été au contraire d'une très grande prudence, pour ne pas dire une ambiguïté sur ces sujets, que ce soit le communautarisme, que ce soit les questions migratoires, que ce soit sur un certain nombre de points qui sont des points essentiels pour l'équilibre de notre communauté. Donc il y a sur ce plan-là une évolution qui est une évolution positive. Deuxième élément, oui bien sûr, et le terrorisme, c'est une menace qui est une menace qui ne date pas de la semaine dernière. Et depuis 2012, de mémoire, il doit y avoir eu 28 attentats terroristes. Dans notre pays, de 268 victimes, auxquelles il convient malheureusement d'en ajouter donc 4. Mmh. Et ça veut dire que près de la moitié des attentats qui sont commis en Europe ont lieu sur notre territoire. Donc nous sommes un territoire ciblé.
Je précise que 59 attentats ont été déjoués,
oui.
Déjoués sur les 6 dernières années.
Et oui, c'est donc ça. Cela, mais quand ils
nous
sont déjoués, c'est une bonne nouvelle.
Nous sommes une cible,
nous sommes dans une situation bien particulière, la France. Nous sommes à la fois un pays source et un pays cible, dans les deux cas. Simplement, aujourd'hui, la menace, ce qu'on appelle la menace, est endogène, elle n'est pas exogène.
Et des Français qui se radicalisent,
oui,
ce sont des Français.
Elle n'est pas exogène. Mais attendez, je ne suis pas aussi optimiste que d'autres sur ce point. Menace exogène, c'est-à-dire la menace venant de l'extérieur. Oui, c'est vrai que l'État islamique a perdu 96% de sa superficie, perdu 90% de ses ressources pétrolières, mais il a encore les capacités de se projeter. Donc on fait comme si tout ceci n'existait pas, et moi je reste persuadé qu'il y a une menace qui est bien et réelle. Mais aujourd'hui, c'est
venant
vrai.
Venant de l'extérieur. Vous avez des informations là-dessus, Brice Hortefeux, qui vous permettent de dire cela.
Je dis qu'on ne peut pas exclure de manière définitive, comme je l'entends ici ou là, la menace exogène. C'est vrai que l'extérieur est affaibli, mais ils ont encore les capacités de se projeter, ne serait-ce que parce que d'ailleurs ils ont des bases de repli vers un certain nombre de pays, d'Asie, la Malaisie, un certain nombre.
Ouais.
Bon, et ça c'est le premier point. Deuxième point, la menace endogène, oui. Et simplement, je ne crois pas non plus, peut-être que je suis à contre-temps ou à contre-courant de ce qui est dit ici ou là, je ne crois pas au loup solitaire. Et il y a toujours, peut-être ça sera un contre-exemple, mais il y a toujours, ou presque toujours, un environnement, ça peut être un environnement familial, un environnement professionnel, un environnement associatif.
Une mosquée salafiste, comme celle de Gonesse, qui est pointée du doigt dans l'affaire de Michael Harpon.
Un environnement sportif, salle de sport aussi. Donc il y a généralement quelque chose. Concernant les salafistes, bien sûr, là vous savez, les chiffres sont malheureusement implacables. Et vous aviez quelques centaines de salafistes dans les années 2000. En 2004, on en estimait, les services de renseignement estimaient qu'il y en était à peu près 5000. Aujourd'hui, les estimations raisonnables indiquent qu'il y en aurait autour de 40 000. Sur le territoire national. Avec 132 mosquées qui sont identifiées comme telles et dont une vingtaine de régions parisiennes à Paris.
Et pourquoi ne sont-elles pas fermées manière quasi automatique, une fois que les services ont la certitude qu'elles prêchent la haine et le rejet de la République?
Un certain nombre ont été fermés, depuis d'ailleurs plusieurs années, c'est pas récent.
Oui, avec une accélération à l'époque de Bernard Cazeneuve.
Avec une prise de conscience surtout. Alors, parce que le salafisme, c'est compliqué, il y a été 3 variantes.
Oui.
Donc il y a une variante qui est pacifiste, une variante qui est, disons, théologique, qui est exactement. Ouais. Et puis il y a une variante qui est une variante active, menaçante, qui remet en cause notre société, notre mode de vie. Donc il y a cette réalité, un nombre croissant de salafistes et des mosquées qui sont toujours actives. Et là, nous avons la démonstration de dysfonctionnement majeur et qui impose des leçons majeures.
Mais alors, ces dysfonctionnements, ils viennent de qui ? Des préfets, des forces de police, de la justice, où les situez-vous, vous, Brice Hortefeux ?
Surtout, enfin, je les situe surtout sur les leçons qu'il lui convient d'en tirer. D'abord, il y a des leçons de comportement individuel. Et jusqu'à présent, on distinguait signal, signal fort, signal faible, comme ça. Aujourd'hui, tout petit signal doit être interprété comme un signal fort.
Alors, c'est ce que vient de dire Christophe Castaner.
Mais c'est ça la réalité.
C'est ce que vient d'annoncer Christophe Castaner, qui est en ce moment en train de rendre des comptes devant la commission des lois à l'Assemblée nationale. Il dit, maintenant, il faut tout de suite signaler. Mais justement, j'ai une question pour l'ancien ministre de l'Intérieur. On a le sentiment, et c'est ce que laisse entendre Christophe Castaner, qu'il y a une culture dans les services de police en France, une culture de « on lave le linge sale en famille, on règle les choses en interne ». On ne fait pas le signalement. Est-ce que vous l'avez constaté, cela ? Est-ce que c'est à cela qu'il faut remédier ?
Parce que c'est effectivement très compliqué de signaler quand on est dans un service, l'occurrence de police, et on ne s'attend pas bien évidemment à ce qu'un de vos collègues s'en prenne au service lui-même. D'ailleurs, à ma connaissance, cela ne s'est jamais produit de cette manière. Et s'il y avait d'ailleurs une appréhension ou une réflexion de les services, c'était plutôt dans les milieux militaires. C'était concerné pas les milieux policiers. Mais donc là, la démonstration est faite. C'est pour ça que je vous dis, premier élément, il faut qu'il y ait une leçon concernant le comportement.
Bon. Dès qu'il y a un signal faible,
deuxième élément, il faut qu'il y ait des leçons qui soient tirées sur le suivi. Et le suivi, ça veut dire plusieurs choses. Et ça veut dire, bien sûr, le passage au crible au moment des habilitations, aujourd'hui c'est 7 ans, il faut que ça soit réduit, c'est lié à l'évolution de société, mais ça veut dire aussi en matière de mutation, en matière de révocation, et ça veut dire aussi en matière de justice, souvent les tribunaux administratifs annulent, c'est ce que les syndicats de police d'ailleurs soulignent à juste titre, et les tribunaux administratifs parfois annulent ces mutations. Et puis il faut enfin qu'il y ait une leçon de comportement, de la connaissance. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation dans laquelle la menace est permanente. Ça veut dire que la vigilance doit être réelle. Moi, je suis convaincu qu'on dominera, on battra et on éliminera ces formes d'extrémisme violent, comme ça s'est produit dans le passé, où il y avait des périodes d'attentats pour d'autres motifs.
Et mais à condition que tout le monde s'y mette.
Et à condition que tout le monde s'y mette. Donc il faut ces trois éléments.
Brice Hortefeux, une question concernant Christophe Castaner. Vous ne faites pas partie de ceux qui appellent à sa démission. Je ne vous ai pas souvent d'ailleurs entendu appeler à la démission de quiconque, d'aucun ministre. Non. Mais tout de même, une question sur la crédibilité de sa parole. Il y a eu ses propos hâtifs, jeudi, le jour du drame, mais avant cela, lorsqu'il avait qualifié ce qui s'était passé à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière d'attaque, avant ensuite de se rétracter, est-ce que la parole du ministre de l'Intérieur est aujourd'hui attaquée dans sa crédibilité ?
Bon, vous avez fait à la fois la question et la réponse.
Non,
ça, c'est
pas
dans
du
bon
tout.
Sens, c'est dans le bon sens.
Pas du tout. Mais je vous demande ce que vous en pensez.
Effectivement, je rappelle les faits. Effectivement, je ne demande pas la démission du ministre et du ministre de l'Intérieur pour une raison très simple, c'est que ayant exercé ces responsabilités, je sais combien elles sont difficiles et que éviter les faux pas est extrêmement compliqué. Deuxième élément, est-ce qu'il y a eu une erreur ? Oui, bien sûr. Il y a une erreur dans la rapidité de la réponse qu'il voulait apporter. Et ça, c'est aussi collectivement, on est collectivement responsable parce qu'il y a une pression de l'opinion, pression médiatique qui exige qu'on ait la réponse, la solution, qu'on ait la connaissance de tout. Il aurait dû, à mon sens, s'exprimer d'abord en termes de compassion à l'égard des familles, des victimes, et des victimes elles-mêmes, bien sûr. Et ensuite, sans doute, s'en tenir à un état des lieux, de ce qu'il savait. Et là, il sans doute allait un peu plus vite. Bon. Vous savez, ça s'est arrivé à tout le monde, ça m'est arrivé à moi-même dans un autre domaine qui était beaucoup moins grave, avec un épisode neigeux. Oui. Donc, on a parfois cette pression, les services qui autour de vous veulent vous expliquer
vous
tout de suite ce qui s'était fait.
Il y a pas de pagaille à l'époque, mais il y avait beaucoup de pagaille. Mais enfin, ce n'est pas comparable non plus
avec
ce qui s'est passé.
Les enjeux n'étaient pas les mêmes.
Je dis un dernier mot, Brice Hortefeux. Vous êtes au courant, on vote dans votre parti dimanche. On va élire un nouveau président des Républicains. républicain, vous soutenez Christian Jacob.
Bon, mais vous êtes formidable.
Vous êtes formidable
individuellement et collectivement.
Brice Hortefeux, pour sauver votre famille, pour la ressusciter.
Mais vous êtes formidable individuellement et collectivement.
Merci à
vous. Comme la campagne se passe sans petites phrases, sans croque en jambes, sans coup de petit poignard ou de petites piqûres d'aiguille, rien du tout, évidemment, du coup, vous expliquez que rien ne se passe. Non, c'est une campagne qui est très digne.
C'est Christian Jacob qui a refusé de débattre avec les deux autres.
Non, mais c'est une campagne qui est très digne. On a des personnalités différentes, des parcours qui sont différents. J'ai personnellement beaucoup d'amitié, voire d'affection avec Guillaume Larrivé qui a travaillé pendant plusieurs années à mes côtés. Mais je soutiens Christian Jacob parce que je considère qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle se trouvent les Républicains, il faut à la fois concilier l'expérience, en même temps la connaissance, et l'appréciation des militants. Et donc, Christian Jacob présente toutes ses qualités et donc je souhaite naturellement son succès.
Nous verrons dimanche s'il est élu dès le premier tour. Brice Hortefeux, député Les Républicains, député européen Les Républicains et ancien ministre de l'Intérieur, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci.